Swing Time 2018. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Swing Time préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier. Qu'on se le dise. Bonjour Alain, bonjour à tous.
Bonjour Martine, bonjour tout le monde, je suis là absolument.
Alors aujourd'hui, quid d'aujourd'hui ?
Eh ben aujourd'hui, on va parler d'un gars qui est un peu français parce que c'est un créole. C'est Edouard, notre ami Edouard, Edouard Kid Horry.
Ah, wow. On y va.
Et on va lui donner un sous-titre à cette émission sur Kid Horry, c'est The Tailgate Trombone. Je vais expliquer Tailgate Trombone. Il y a déjà une barrière dans Tail. C'est la barrière qui est à la queue, qui est derrière. On va comprendre pourquoi. Et Kid Horry fut sans doute le plus célèbre tromboniste de style New Orleans, même si en fait, il a joué essentiellement, il a vécu essentiellement en Californie. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Et cette référence à Tailgate Trombone, il la doit autant à sa longévité musicale, à son art consommé du trombone à coulisses, c'est pas à piston, c'est bien la coulisse. Il est vraiment le roi du style Tailgate, qui est une façon de jouer l'accompagnement à la ligne mélodique en s'appuyant sur les fortés, les glissandos ou les glissandis, ça dépend comment on veut prononcer, fortés et glissandos obtenus par le maniement parfaitement contrôlé de la coulisse. Et pourquoi tailgate ? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, parce que ces joueurs de trombone, pour manier leur instrument, donc il y avait une coulisse, ça prend de la place hein, vers l'avant, eh bien ils s'asseyaient à l'arrière des camions ou des remorques, les jambes pendantes, et donc le haillon arrière... Tailgate, c'est ça, c'est le haillon arrière, la ridelle qui est derrière le camion ou la remorque, était abaissée. Il pouvait donc s'asseoir et il poussait la coulisse à l'extérieur du camion ou de la remorque. Voilà. Voilà, d'où le style tailgate. Donc, c'est ces trombones qui savent manier la coulisse, en fait. Et Kid Horry, eh bien, c'est un musicien louisianais, un créole, je dis tout à l'heure. Il est né dans un petit village qui s'appelle La Place. La Louisiane était une ancienne possession française, hein, ça fait référence à Louis XIV. Il est né bien sûr dans une plantation, peut-être le 25 décembre 1886. Si, alors on n'est pas sûr que ce soit ce jour-là, mais c'est mieux de naître le 25 décembre que le 10 décembre. Hein.
Oui, c'est plus médiatique. Hein.
Ça fait mieux. Ouais. Hein. Quand on est tout petit, on peut penser qu'on fait la fête parce qu'on est né ce jour-là, peut-être. Oui, donc, on va dire qu'il est né le 25 décembre 1886. Et il a une vie très, très longue puisqu'il est mort le 23 janvier 1973, toujours attiré par le soleil. Hein. C'est héliotrope, hein, cet homme. Il va vers le soleil. Il est mort à Honolulu, donc dans les îles Hawaï, qui sont aussi des possessions américaines. Et il a passé la plus grande partie de sa vie, je l'ai dit, en Californie, parce qu'un médecin lui avait conseillé un climat qui était moins chaud et moins humide que son Deep South natal. Mais le plus intéressant, c'est de l'écouter tout au long d'une carrière qui est étendue en deux parties, entre les années 1910 et 1970. Il y a une rupture dans cette carrière de 33 à 42. Ben, c'est tout simplement une conséquence de la grande crise économique de 29. Et Kid Horry, à partir de ce moment-là, a fait divers métiers. Il a aidé son frère qui a été éleveur de poulets. Et puis, il a fait d'autres petits métiers. Et puis, à partir de 43 jusqu'à 61, il a enregistré à nouveau plus quelques plages en 71. Donc, il a enregistré très longtemps. Il a commencé à enregistrer, si j'ose dire, avant les disques, quand il y avait les premiers enregistrements, avant qu'on fasse des disques. Donc, des enregistrements très lointains. Et on va commencer par la toute première gravure de Kid Horry. Il est à la tête d'une formation qui est appelée bizarrement le Spike's Seven Pods of Pepper Orchestra. On voit que c'est de la musique pimentée. Il y a Pepper, on voit qu'ils sont sept, hein, Seven Pods. Et il s'agit tout de même de l'orchestre de Kid Horry. On est en 1922, on est déjà à Los Angeles, puisqu'il s'est installé dans cette ville en 1919. Et on va tout de suite comprendre le style tailgate, hein, la coulisse qu'on sort du camion ou de la remorque. On va entendre une composition de Kid Horry qui s'intitule tout simplement Horry's Creole Trombone et s'est enregistré à Los Angeles en juin 1922. Thank you. Tromboniste puissant, prototype de la musique louisianaise, joué avec une coulisse, Kid Ory va intéresser les premiers maîtres du jazz, donc les premières voix du genre, et on va l'écouter tout d'abord avec King Oliver, donc le premier roi, et une chanteuse invitée pour ce titre qui s'appelle Georgia Taylor, et le titre c'est Jackass Blues, c'est un disque enregistré à Chicago le 23 avril 1926. Pu reconnaître King Oliver au cornet puissant et mélodieux. Le pianiste, c'est Louis Russell, le papa de Catherine Russell qu'on évoque à Limoges d'ailleurs. Les clarinettistes, c'était du tout bon aussi. Il y avait Barney Bigard et Albert Nicolas qui jouaient deux concerts. Ils étaient en solo tous les deux. Il y avait un solo de ténor assez médiocre, je pense que c'est Albert Nicolas, mais c'était moins bon. Au banjo, un bon banjoïste qu'on va retrouver aussi avec Armstrong plus tard, c'est Bud Scott. Et je vais faire un petit peu de vocabulaire. Jackass, ce petit mot, c'est pas jacassé parce que en américain, ça veut dire l'âne ou le baudet. Et donc, par extension, c'est le crétin. Et puis, il y a même un terme, le double sens de l'argot noir, qui est assez trivial. Donc là, je ne vais pas évoquer la dernière acception du mot. On va retrouver Kid Ory avec un autre roi du jazz, le roi du jazz, le seul, le vrai, c'est-à-dire Louis Armstrong, dans une célèbre composition de Kid Ory, justement. C'est la balade du rat musqué, c'est-à-dire Muskrat Rumble. C'est enregistré toujours à Chicago, le 26 février 1926. Ça aussi.
Oui.
Ah, alors, il y avait le style tailgate de Kid Ory, donc on a bien compris, il pousse loin la coulisse du trombone, mais on a apprécié bien sûr le talent monumental de Satchmo, de Louis Armstrong, tant en solo que dans les collectives, plus un bon clarinettiste qui est Johnny Dodds, and Mrs. Armstrong herself au piano. Lil Hardin, c'était la femme de Louis, elle lui avait mis le grappin dessus. Et on a bien sûr l'insurpassable Outfile de Louis Armstrong dans ce disque. Nous allons continuer avec un autre créateur du jazz, en tout cas c'est comme ça qu'il s'appelait, c'était The Originator of Jazz, tout simplement, Jelly Roll Morton. Et durant ces mêmes années 20, Kid Ory intégré sa formation et il prend de bons solos et des breaks intéressants dans un morceau intitulé Smokehouse Blues, et c'est toujours à Chicago, le 15 septembre 1926. Thank you. chacun s'exprime à la fin tout de même. Alors, il y avait deux autres musiciens que je n'ai pas cités, qui sont de très bons musiciens. C'est Homer Siméon à la clarinette et George Mitchell qui joue du cornet. À l'époque, on jouait plus souvent du cornet que de la trompette. C'est quand Louis Armstrong va passer à la trompette qu'ils vont tous passer aussi à la trompette. On va avoir dans la carrière musicale de Killory une longue éclipse que j'avais évoquée tout à l'heure, puisqu'il arrête de jouer vers 1933. Il devient donc fermier avec son frère, il a travaillé dans les chemins de fer, bon, il a fait un tas de petits métiers. Et il retrouve la scène musicale avec Barney Bigard en 1942 et les studios d'enregistrement l'année suivante, en 1943. Il va pratiquer au départ divers instruments, le saxo alto, la contrebasse, et il va participer aux émissions d'Anson Wells, qui faisait des émissions sur le jazz, des émissions qui passaient en Amérique, coast to coast, hein, on écoutait dans l'ensemble du pays. Et il a poussé ce fameux Anson Wells, il a poussé Killory à reprendre son trombone, et Killory va devenir un des moteurs du New Orleans Revival, c'est-à-dire le style, la renaissance du style Nouvelle-Orléans. On va donc l'écouter maintenant, mais en 1945, le 12 février, dans un morceau enregistré évidemment à Los Angeles, parce qu'il est revenu à Los Angeles. Le morceau s'intitule Savoy Blues, et c'est de Killory d'ailleurs. Et bien swingant.
Très.
Alors, dans ce titre, Killory avait retrouvé son vieil ami Papa Mudcarret qui joue de la trompette cette fois-ci. C'est lui qui l'avait accompagné une première fois en 1919. L'orchestre était un orchestre typiquement New Orleans. Donc, avec Mudcarret, on reconnaît bien sa sonorité. Elle est assez désuète, mais tout à fait authentique. Donc, quand on l'entend une fois, on l'a bien entendu. On va le réécouter d'ailleurs, Mudcarret, aujourd'hui. On a un bon clarinettiste qui joue moelleux lui aussi, un peu comme Homer Siméon. Il s'agit de Joe Dansburg. Au piano, Buster Wilson. À la guitare, on retrouve Bud Scott, Edgar Land à la contrebasse et Alton Redd qui joue de la batterie. On va prendre les mêmes musiciens sauf Joe Darrensbourg qui va être remplacé par le sublime Barney Bigard qui est dans le même style mais qui est d'un cran supérieur, donc à la clarinette. Kid Ory va affirmer maintenant sa créolitude, si j'ose dire, pour ne pas dire avec un écrivain français qui est et antillais, qui est Patrick Chamoiseau, qui a été pris Goncourt. Patrick Chamoiseau, lui, parle de créolité. Alors, pourquoi je dis ça et pourquoi je place Kid Ory dans un courant littéraire antillais? Eh bien, on va s'en rendre compte tout de suite en écoutant bien les paroles du morceau suivant, qui valent leur pesant d'humour. Cela se termine, alors je dis que la fin, mais il faut tout écouter. J'ai tué cochon, j'ai tué lapin et mangé plein. J'ai fait gombo, j'ai mangé trop et ça fait moi malade. On va donc écouter en patois créole et là-bas enregistré à Los Angeles le 3 août 1944. J'avais trop mangé.
Il aime la cuisine, il mange pain, il boit du vin, ça va goûter à rien. Et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
oh cher là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
oh cher là-bas.
J'ai tué lapin et j'ai mangé plein. J'ai fait gombo, m'a mangé trop et ça fait mon malade. Et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
et là-bas,
oh cher là-bas,
et 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 là-bas,
oh cher là-bas.
Et là-bas,
pas, ouais,
c'est bien,
c'est sympathique. Ouais.
Et là, on comprend tout.
Oui.
C'est du créole,
oui.
Presque tout.
Presque
mais on,
tout. Ouais.
On comprend. Voilà. Ben, il parlait le créole, donc un patois un peu français, tout de même, hein, plus qu'américain ici, plus qu'anglais. On a reconnu bien sûr Maud Carré qui jouait de la trompette et on avait la section rythmique du titre précédent, donc une bonne section rythmique avec Buster Wilson au piano notamment. On va entendre un thème nouveau qui a été rendu célèbre par ses descentes chromatiques. C'est un ragtime de 1916. Ça s'intitule Down Home Rag et c'est enregistré toujours à Los Angeles le 8 septembre 1945.
Thank you.
était bien, ça aussi.
Oui.
C'était joli.
Dynamique, entraînant.
Voilà. Alors, bon, on avait des jeunes hein, dans cet orchestre, puisqu'on retrouve le vétéran Maud Carey. Je signale qu'il était né en 1891. Le titre date de 1945. À la clarinette, il y avait Darnell Howard, qui est aussi un très bon clarinettiste. Il est plus jeune, lui, il est né en 1895. On avait un pianiste encore plus jeune, Buster Wilson, né en 1897. Alors, Bud Scott, au banjo, il est peut-être né un peu plus avant, peut-être autour de 1890. Edgar Land, le bassiste, est encore plus âgé. Il est né peut-être vers 1885, tout ça n'est pas sûr. Et Minor Hall, alors c'est le gamin de tous, il est né, c'est le batteur, mais c'est le gamin puisqu'il est né en 1897. Donc, ce sont que des cinquantenaires à l'époque qui retrouvaient une nouvelle jeunesse. On est d'accord, Martine.
Oui.
Ils sont jeunes.
Et ça ne s'entend pas. Hein.
Et ça ne s'entend pas. Alors, on va continuer avec du jazz et on sait que le jazz peut tout jouer. Alors, Kid Dory va s'associer avec sa femme Cecil, ou Cécile en français. C'est un joli nom pour chanter, pour faire de la musique.
Ah,
c'est
oui.
Cécile
ouais.
tout de même. Ouais. Donc, Kid Dory et Cecil Horry vont adapter un air qui vous dira quelque chose, je pense, à tous les auditeurs. Ils vont l'interpréter vocalement en créole à nouveau, donc on va encore entendre un petit peu de créole. L'orchestre va changer très peu, sauf Barney Bigard qui arrive avec sa clarinette et Elsie Cooper qui tient le piano. Alors Elsie, on peut l'écrire puisque c'est les deux lettres de son prénom, L et un Z, Elsie, mais on peut l'écrire L-Z-I-E, évidemment, les Américains aiment bien faire ça. Donc Elsie Cooper au piano, Kid Dory va se contenter, si je peux dire, d'accompagner comme il se doit au trombone. Et vous allez bien écouter ce Creole Bobo enregistré à Los Angeles le 21 octobre 1946. Je crois que ça va vous dire quelque chose.
Papa, dans les gens bien cotagants. Maman, les papas, oh papa, on l'aimait toi. Il aimait les petites bêtises, et c'est vous, c'est là qu'il en. Chit popo, prends garde à toi, la salvate est derrière toi. Aïe, aïe, on l'aimait toi. Aïe, aïe, tu fais mon mal. Papa, sont des gens bien cotagions. Les mamans, les papas, oh papa, on l'aimait toi. Il aimait les petites bêtises, et c'est vous, c'est là qu'il a. Petite popo, prends garde à toi, la salvate est derrière toi. Aïe, aïe, on l'aimait toi. Aïe, aïe, tu fais mon mal.
Mais c'est quand trois poules vont touchant, ça.
Oui, mais toi,
la
tu le sais.
La première va devant.
Toi, tu le sais, parce que tu es une spécialiste de la poule pondeuse, évidemment.
Ce qui est un peu vrai.
C'est même tout à fait vrai, voilà. Mais ce n'était pas tout à fait une berceuse, tout de même. Non, hein, c'était assez envoyé. Alors, je me demande, moi, si ce n'est pas Mozart qui s'est inspiré de la musique créole Ah, et de cette berceuse, je pense que c'est plutôt ça. Quand
par
il
rapport
s'est
aux dates,
mis... voilà, quand
c'est quand même un repère.
Ben oui, il a commencé à jouer, à composer à 5 ans, donc c'est un morceau de sa toute prime jeunesse. Donc on a dû lui chanter ça. Kidori a dû lui jouer, je pense, parce que c'est un vieux musicien, Kidori, tout de même. C'est la seule explication rationnelle. Donc Mozart a copié Kidori.
C'est connu. Il faut que ça se sache.
Voilà, il faut faire une rectification historique. On va continuer un peu avec l'histoire et le jazz New Orleans qui peut jouer de tout, puisque c'est une musique de marche au départ. Le jazz New Orleans, ça servait pour défiler, le carnaval, les enterrements, etc., pour les parades. Et Kidori a commencé dans ce genre, à l'arrière du camion de la charrette, on l'a dit. Il n'a donc rien oublié de cette époque et il n'a rien perdu non plus de ce qu'il jouait 30 ans plus tôt. On va l'écouter en 1953, un titre enregistré à Los Angeles qui s'intitule « South Rampart Street Parade ».
Ça,
c'est militaire, wow. Tout à fait. Alors là, on avait un orchestre qui s'est beaucoup transformé et si j'ose dire, il avait beaucoup blanchi parce qu'on avait des noirs, très noirs, comme dirait l'autre.
Noir-noir,
voilà, des vrais. Hein. Teddy Buckner à la trompette, Bob McCracken à la clarinette, c'est tout noir. Minor Hall, pulsation 100% New Orleans, c'est tout noir. Puis les autres, c'est tout blanc. Don Ewell au piano, Julian Davidson à la guitare et Morty Cobb à la basse. Donc c'était un orchestre black and white celui-là. Voilà. On va continuer avec Kidori, évidemment. On sait qu'il a vécu à Los Angeles, on l'a assez dit maintenant. Et dans cette ville, il y avait une boîte de jazz qui a fonctionné des années 40 aux années 60, qui programmait beaucoup de jazz de bonne qualité. Et notre tromboniste, même s'il était louisianais, comme il vivait en Californie, il a été souvent l'invité de ce club. Et il a enregistré énormément dans ce club. Et on va l'entendre dans un enregistrement de 1954. C'est le club Hangover, enfin je le dis tout de même. Et il nous a gravé cette fois Bowling the Jack le 23 octobre 1954.
Opening tune tonight, Kid Ory, the Creole Jazz Band, and Bowling the Jack.
C'était l'ambiance club, là, cette fois-ci. dans l'orchestre, il y avait Georges Probert qui joue de la clarinette. Alors, je suis désolé pour les auditeurs, mais dès qu'il monte à l'aigu, il joue un peu faux ce garçon. Mais bon, mais on passe. Et puis, les autres solistes s'en tirent très, très bien. Il y avait Don Hewell au piano, Alvin Alcorn à la trompette et surtout une rythmique sensationnelle avec Edgar Land à la contrebasse. Il fait même de la slapping bass, hein, il fait claquer la corde contre le manche de la contrebasse et un excellent batteur de style New Orleans, Minor Hall, qui joue sur la caisse claire, des petits roulements notamment. Donc c'est typique du style. On va entendre maintenant des disques de Kid Ory enregistrés par une firme fameuse qui était la firme Good Time Jazz. Il a enregistré beaucoup avec cette firme et si on veut acheter des disques de Kid Ory, ben on peut les trouver dans les boutiques en ligne et on peut taper dans les Good Time Jazz. C'est excellent. On va entendre deux aspects bien différents du style de Kid Ory enregistré chez Good Time Jazz. Il joue bien sûr dans le vieux style, d'abord en tempo rapide, puis en tempo moyen et toujours avec un swing absolu. L'orchestre comporte des musiciens bien peu connus, mais qui sont excellents. Le premier, ben, on vient de l'entendre, c'est Alvin Alcorn à la trompette. Le clarinettiste s'appelle Phil Gomez. On a Lionel Reason au piano, Julian Davidson, qu'on a entendu tout à l'heure, à la guitare. Et deux monuments louisianais, mais là connus, c'est des monuments. Wellman Road à contrebasse et Minor Hall à nouveau à la batterie. On écoute successivement. Ben d'abord un morceau dédié à une maison de plaisir, la Nouvelle-Orléans du quartier de Storyville. Hein, on est chez Lulu White. Ça s'appelle Mahogany Hall Stomp. Et le deuxième morceau, ben il est tout doux, tout sucré, puisque c'est Sugar Blues, enregistré tous les deux le 22 novembre 1955. c'était bon ça aussi.
Oui, oui.
Alors, Kidori a toujours su s'entourer dans tous ses orchestres de musiciens qui donnent cette couleur du vieux Sud si caractéristique. Et alors, quand je pense que Gérard Comte avait écrit dans le nouveau dictionnaire du jazz que Kidori était un soliste aux possibilités assez limitées, c'est un jugement qu'on peut considérer erroné.
Oh.
Hein, bon, il s'était trompé, le monsieur, en écrivant ça.
Il s'est excusé après, non?
Je ne crois pas, non, il l'avait écrit. Bon, il ne peut plus l'écrire maintenant, mais hélas, pour lui. Mais le jugement n'est pas bon et on va le prouver puisqu'on va continuer à écouter du Kidori. Et on va l'écouter dans un titre qui est Snag Hit, qui a été joué par King Oliver et Louis Armstrong au début de la carrière de Louis. Snag Hit est enregistré à Los Angeles le 22 novembre 1955, comme les deux titres précédents.
All right.
après cette réminiscence de King Oliver Louis Armstrong dans Snake It, on va écouter un morceau du répertoire traditionnel du jazz louisianais. Killory est toujours notre trombone tailgate, il pousse toujours très loin sa coulisse. Elle est bien dégagée par la ridelle qui est retombée du camion et de la remorque. Il est efficace, il est inspiré tant à l'accompagnement qu'en solo. On va en juger avec le fameux titre « Careless Love » enregistré à Los Angeles le 18 juin 1956.
Thank you.
retrouver nos bons rythmiciens que sont Wellman Bro de la contrebasse, Minor Hall à la batterie, qu'on reconnaît bien maintenant. Il y avait un bon pianiste qui était Cedric Haywood. Et puis, on a retrouvé Phil Gomez à la clarinette et un bon trompettiste assez méconnu qui est Alvin Alcorn. On va retrouver Killory dans un thème qui est drôlement bien enlevé, que Louis Armstrong avait interprété durant ses années OK, si je peux dire, quand il enregistrait pour la firme OK Electric à l'époque. On peut apprécier la façon de Killory d'accompagner la ligne mélodique, tout comme sa façon d'improviser sur le thème en le paraphrasant. Nous allons entendre Come Back Sweet Papa, enregistré à Hollywood, toujours en Californie, on a un peu bougé, Hollywood, en juillet 1959.
Thank you.
certains musiciens étaient restés, d'autres avaient changé, comme toujours. Il déplace quelques pions sur son échiquier, Kid Ory, du moins dans son orchestre. On avait Bob McCracken à clarinette, qu'on va entendre plusieurs fois maintenant. Le trompettiste était Henry Red Allen, qui est originaire de Louisiane, mais lui, de l'autre côté du fleuve, donc d'Algiers, en face de la Nouvelle-Orléans. Et ils étaient bien dans le ton, hein, tous les deux. Ils fonctionnaient bien ensemble. Ils ont joué assez longtemps ensemble, d'ailleurs. On va les écouter un peu plus tard, tous les deux. On a remarqué, je suppose, que le batteur n'était plus Minor Hall. On n'entendait plus ses petits roulements. C'était Alton Redd. Donc, il ne tape pas du tout, il ne bat pas du tout comme un batteur New Orleans. Il marque beaucoup l'afterbeat. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est un autre style de batterie, mais c'est moins dans le style New Orleans. Mais l'esprit louisianais était tout de même présent, me semble-t-il. Alors, Kid Ory, tout comme Louis Armstrong, a consacré un album complet au Fathers of the Blues, le père du blues, du moins c'est ainsi qu'on l'appelait, c'est-à-dire William Christopher Handy, compositeur de St. Louis Blues, entre autres. Alors, c'est un album que Kid Ory a enregistré, qui est superbe, je dirais qui est indispensable pour toutes les personnes qui aiment le jazz New Orleans. On a donc droit à un extrait de ce célèbre album de Kid Ory. C'est Yellow Dog Blues, qui est lui un titre célèbre, et c'est enregistré bien sûr à Los Angeles le 1er avril 1959. Mais c'est le 1er avril, mais c'est bien Yellow Dog Blues, hein, c'est pas une blague. Thank you. été une bonne formation de Kidori à nouveau. Je vais donner les musiciens parce que ça a un petit peu changé. Le trompettiste, bon trompettiste, c'était Teddy Buckner, on l'a entendu aujourd'hui. Le clarinettiste est nouveau, c'est Kaufer Roberts. Le pianiste est toujours Cedric Haywood. À la guitare, Frank Ayerty. À la basse, Charles Oden. Et à la batterie, Jess Sales. On va retrouver Kidori, les pieds pendants bien assis à l'arrière du plateau Aridel, maniant toujours joyeusement et impétueusement sa coulisse. Et on va parader avec lui sur une vraie marche militaire, à nouveau, mais une marche militaire façon Nouvelle-Orléans, évidemment. Au moins au début, elle est bien militaire. Et ça s'intitule « Battle Hymn of the Republic », enregistré à Los Angeles le 21 décembre 1960. C'était une marche militaire, hein, et patriotique, carrément. Mais jazz et swingant tout de même. Tu es d'accord, Martine?
Oui.
C'était du jazz et du swing.
Oui, tout à fait.
On est
oui.
là pour ça, n'oublions pas. Eh bien, pour terminer, on va écouter une musique qui évoque le quartier chaud de la Nouvelle-Orléans. Les musiciennes Kidori sont maintenant Andrew Blakeney à la trompette, Bob McCracken à nouveau à la clarinette, Bobby Van Epps au piano, John Saint-Cyr à la guitare, ça c'est un gars connu, il a joué avec Armstrong il y a très très longtemps. Bob Boyack qui joue de la basse et Doug Senardo à la batterie. Le titre, il y a deux titres d'ailleurs, c'est soit Farewell to Storyville, au revoir, adieu à la Storyville, ou bien Storyville Blues, c'est un disque enregistré à Hollywood le 5 décembre 61, comme le précédent.
Thank you. Just to have a little fun. Well, the police cops have made a stop, and Storyville is done. Now, pick out your steamboat, go and get yourself a train. I mean a slow old train. Pick out your steamboat, go and get yourself a train. I mean a slow old train. They made you move out, they'll never let you back. Well, they'll never let you back. Go buy your ticket unless you walk the track.
C'était beau ce dernier morceau.
C'était très joli.
Voilà. Eh bien, on peut dire, enfin j'espère que ma démonstration a été efficace, que Killory est le spécialiste du style tailgate.
On peut le dire.
On peut le dire, hein. Tout le monde est d'accord, j'espère. Hein. L'ensemble de sa carrière, la qualité de ses partenaires, la cohérence de ses formations, sa fidélité au jazz des origines, qu'on aime bien, son inventivité, sa puissance musicale l'ont placé au firmament du jazz néo-orléanais. Tu es d'accord,
Martin? Ah ouais, que d'adjectifs, mais qui le vont bien.
Voilà. Et donc, Killory demeure aujourd'hui une référence essentielle de cette musique, de notre musique, de celle que l'on aime. Et l'audition du jour visait à rappeler cela. Je vous renvoie aussi à l'article en deux parties que Jacques Morgantini écrit dans le bulletin du Hot Club de France de novembre et de décembre 2017. On en saura plus, et notamment sur toute la période du Jazz New Orleans Revival. Il a écrit deux articles de fond qui sont intéressants. Je n'ai pas tout à fait comparé, mais je pense que des titres qu'il indique, on a dû les entendre aujourd'hui, mais il y en a tellement qu'on a l'embarras du choix. En guise d'épitaphe, pour Killory, ben on pourrait citer le titre d'un morceau louisianais qu'il a joué, tout comme Satchmo d'ailleurs. « Oh, didn't he rumble ?» Qu'est-ce qu'il a pu se balader celui-là ?
Thank you.
c'était Swing Time 2018. C'était Alain Charbonnier et c'était Kidori.
Voilà, et j'étais en coulisses de Kidori.
J'étais en coulisses.
Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé.
Bon, on se retrouve la semaine prochaine, je crois.
Je vais essayer de revenir.
Avec une journée intéressante.
À bientôt, Martine.
À bientôt.
Et au revoir tout le monde.
Au revoir.